Nous avions laissé la dernière fois Jésus, alors qu'il venait d'instituer le sacrement de l'Eucharistie, le jeudi soir, après avoir célébré la Pâque juive, comme il le fait chaque année avec les apôtres, modifie le dernier rituel, la dernière coupe, le dernier pain, et récite sur ce pain et sur ce vin, les paroles de la consécration, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Puis il quitte le cénacle pour l'agonie et pour le lendemain, sa mort sur la croix. Ce qui est impressionnant, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment l'Église, dès le début, dès les premiers instants de la naissance de l'Église, a pris conscience du trésor qu'elle avait entre les mains, a compris que ce qui s'était passé ce jeudi soir n'était pas à mettre au même niveau que les autres actions du Christ. Son trésor était là. Dans cette phrase de Jésus, faites ceci en mémoire de moi, qu'elle avait en son sein la présence de Dieu, une présence toute spéciale, une présence réelle qui allait l'accompagner durant toute son existence. Lorsque Jésus dit, juste avant de monter au ciel, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, cette affirmation n'est pas simplement une présence spirituelle. C'est plus. C'est le mystère de l'Eucharistie. Que l'Église, à partir de la mort du Christ et dès son ascension, va célébrer quotidiennement, prenant conscience petit à petit et très rapidement qu'elle a entre les doigts le corps du Christ, qu'elle vit chaque jour quand elle célèbre l'Eucharistie. Le sacrifice du Christ. Et cette vérité fondamentale, cette double vérité, la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie, et le fait que l'Eucharistie est un sacrifice, c'est le sacrifice du Christ renouvelé, cette double vérité ne va cesser de l'accompagner tout au long de son enseignement, tout au long de l'histoire de l'Église et jusqu'à aujourd'hui. Et l'un des aspects de ce que je veux montrer aujourd'hui, c'est à quel point cette doctrine est restée la même. De manière d'unité extraordinaire depuis l'an 70 après Jésus-Christ, quelques années après l'Ascension, jusqu'à aujourd'hui en 2021, en 2019. En 2019. Et ça, je trouve ça impressionnant. Avant d'entrer la prochaine fois dans l'étude un peu spécifique de la présence réelle, du dogme de l'Eucharistie, je voudrais faire aujourd'hui un rapide regard historique sur l'évolution de la doctrine sur l'Eucharistie. On avait fait ça l'an dernier, avant de rentrer dans le mystère de la grâce, avec plein de flèches de partout et des lignes et des colonnes. Avant, on avait regardé un petit peu comment tout cela s'était mis en place à travers l'histoire de l'Église, notamment vers les hérésies, la réponse aux hérésies. Je pense que c'est pas mal pour vous donner quelques points de repère, lignes de conduite, savoir ce qu'il faut croire, tout simplement, afin de ne pas trop errer, de ne pas trop se tromper la prochaine fois. Il y a aussi que là, on est dans la chapelle, j'ai pas de petit tableau sous les mains, et la prochaine fois, je vous ferai plein de flèches. Et tout ça pour expliquer un peu mieux le mystère de la présence réelle. Donc, on va faire un petit peu l'histoire de l'Église, l'histoire du dogme de l'Eucharistie dans l'Église, pas l'histoire des rites. D'abord, parce que je ne suis pas très compétent dans ce domaine-là, je ne suis pas liturgiste, trop complexe, ça me prendrait un temps énorme d'étudier l'histoire des rites. Mais l'histoire de l'enseignement de l'Église sur l'Eucharistie, qui vous allez le voir, a une influence sur les rites. La façon dont l'Église prie, tout au long des siècles, correspond à sa foi profonde. Il y a ce grand une devise, comment on appelle ça, une devise, l'axio, voilà, l'ex orandi, l'ex credendi. La loi de la prière, c'est la loi de la foi. Très important. C'est-à-dire que il y a une influence mutuelle entre la foi de l'Église et la façon dont elle prie. C'est parce que l'Église a approfondi sa foi dans l'Eucharistie qu'elle a fait évoluer sa prière eucharistique et la façon dont elle prie l'Eucharistie. Et on le verra, peut-être pour le coup au deuxième trimestre, comment l'approfondissement de la croyance dans la présence réelle a amené avec lui une modification de la manière de célébrer la messe, le rite de la communion, quelque chose de ce genre. La foi oriente la prière. Et inversement, la prière oriente la foi. Parce que la manière dont je prie, les actes que je pose, disent quelque chose, me parlent, parlent à l'intelligence. Et vont m'aider à mieux croire. Ou au contraire, m'éloigner de la foi. Je crois qu'il ne faut pas minimiser ce lex orandi, la loi de la prière, et notamment tout l'aspect des rites sensibles et extérieurs, à travers lesquels je manifeste quelque chose. Ce n'est pas sans répercussion sur la foi. Je vous racontais cette histoire, voilà, c'est pas une vraie histoire, mais je la trouve bien, dans le livre de Vladimir Volkov, Le Traître, que je vous invite à lire, qui est passionnant. C'est un agent du KGB qui rentre au séminaire et devient prêtre pour infiltrer l'Église et qui célèbre la messe donc sans y croire. Il la célèbre pendant 40 ans. 40 ans, en mode orthodoxe, il dit, il pose les gestes, une génuflexion, une inclination, une prosternation devant un morceau de pain, de ce qu'il croit être un morceau de pain, parce que, comme il dit, les paroles de la consécration validement, ça devient vraiment le corps de Christ, parce que vous avez compris, on le verra. Donc c'est vraiment la messe à l'angle de la vie, mais lui, il ne croit pas. Mais à force de poser ces gestes-là, un matin, il est par la consécration, génuflexe, et il se redresse et dit Jésus, vous êtes là. Et il a la foi. Et oui, la loi de la prière, la façon dont on prie, oriente et accompagne notre foi. Troisième amour. Ce que je veux essayer de mettre en lumière aussi, dans ce rapide parcours, c'est l'importance du magistère de l'Église, dont on ne tient plus aucun compte aujourd'hui. Et c'est bien malheureux. On a l'impression que la foi est devenue une affaire personnelle de comment est-ce que moi j'ai compris le mystère, comment est-ce que moi je me place par rapport à tel ou tel aspect de la foi, et qu'on oublie de regarder ce que l'Église en pense. Je suis assez surpris dans les différents, sur les réseaux sociaux notamment, pose parfois des questions, comment est-ce que vous allez, comment vous expliquez à un non-chrétien, ou comment est-ce que, qu'est-ce que vous dites à un non-chrétien sur la messe, sur l'Eucharistie, sur la confession, sur tout ça. Toutes les réponses, c'est « moi, je vois tout plutôt comme ça. Moi, je pense que la messe, c'est plutôt partage. Moi, je pense que la messe, c'est plutôt sacrifice. Moi, je pense que la messe, on s'en fout de ce que tu penses. » Que pense l'Église? Et j'insiste, que pense l'Église? Parce que c'est ça, la foi. Et toi, tu as à adhérer à la foi de l'Église. C'est très. C'est pas moderne, hein, comme manière de faire. Mais c'est essentiel. C'est essentiel d'avoir cette humilité de dire que c'est pas moi, né il y a 20, 30 ans, qui vais expliquer ou résumer ce que l'Église a mis 2000 ans à comprendre. Et ce que l'Église d'ailleurs a reçu du Christ, elle. Moi je reçois l'Église. Moi Jésus, je ne l'ai pas vu. La foi, c'est l'Église qui l'a vu. On a l'impression qu'il y a une séparation, que le magistère, les encycliques, l'enseignement des papes et des conciles, tout cela ne compte pour rien dans la foi des fidèles. Et c'est une mentalité très très moderne, et qu'il pourra prouver, je ne mets à coup pas, chez les modales ou chez les tradis. Alors les tradis, c'est plus par défiance envers le magistère actuel, on va dire là, faire confiance au pape. Les papes et les papas, hein, finalement, l'autorité de l'Église, elle compte. Elle compte réellement. Elle ne varie pas selon si j'aime le pape ou pas. La question, ça va être, est-ce que, de distinguer les degrés d'autorité du magistère, à quel quel niveau se place ce texte-là, et est-ce qu'il est dans un critère intéressant avec la continuité. L'Église est une, sa foi est une. Et donc je vais essayer, moi, en tant que chrétien, de voir une continuité, de travailler une continuité à travers le magistère. Mais le traduit a un peu cette réaction de magistère récent, on fait gaffe. Tandis que le moderne, voire plutôt un peu la même réaction, mais à l'inverse, de la foi et de l'affaire personnelle. C'est très protestant comme manière de voir les choses. Le magistère est pour vous la référence de votre foi. C'est le lieu de votre foi. Et donc avant de se poser des questions sur un sujet théologique, il est essentiel d'aller voir ce que dit l'Église, de recevoir ce que dit l'Église. Si vous ne voulez pas recevoir ce que dit l'Église, vous n'êtes pas catholique. C'est un choix, hein, vous faites ce que vous voulez. Vous n'êtes pas catholique. Et ayant reçu ce que dit l'Église, après on approfondit, et on cherche, et on fait vraiment la théologie. On fera la prochaine fois. Mais avant, essayons de recevoir. Parce que l'Église, c'est pas n'importe qui. L'Église, elle a assisté à la première scène. L'Église, c'est les apôtres. Et ce qui découle des apôtres. Et l'Église, elle a reçu une mission de conserver le dépôt de la foi et de vous l'apporter à vous en 2019. Et cette assistance, c'est le Saint-Esprit qui opère en vous. Il y a un mystère de l'Église, une foi à voir dans l'Église. Ce que dit l'Église, ben j'y vais. Vous voyez, cette attitude, il faut vraiment la faire naître en nous. Cette fidélité au magistère, cet attachement à ce que dit l'Église, et qui est une boussole pour la foi. C'est vraiment important. Voilà. Commençons donc. Je vous ai mis quelques textes d'abord, des pères de l'Église. Je ne vais pas pouvoir m'y attarder longtemps, malheureusement, alors que c'est extraordinaire, passionnant, très important de regarder ce que disent les pères de l'Église. C'est eux qui ont reçu l'enseignement du Christ, qui sont les témoins de la tradition des apôtres. Ils ont connu les apôtres, ils ont reçu ce que les apôtres leur ont dit, et ils arrivent et ils nous disent des choses. Les pères de l'Église, c'est quelque chose d'essentiel dans la composition du dogme catholique. Il n'y a pas de concile avant 325 après Jésus-Christ, à cause des persécutions. Donc il n'y a pas d'enseignement dogmatique de l'Église, des belles formules bien résumées par tous les évêques ensemble, avant 325. En revanche, il y a les pères de l'Église, dont les trois premiers, la Didache, c'est un livre, Saint Clément de Rome, Saint Ignace de Antioche, ont connu les apôtres. Ont connu, ont fréquenté les apôtres. Donc c'est pas rien. C'est pas rien. Et donc, on a, avec les pères de l'Église, la façon dont l'Église des premiers siècles croyait, vivait sa foi, célébrait la messe et comprenait le mystère de l'Eucharistie. Et déjà, vous voyez, la Didache, premier texte, 70 et 90 avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, le jour du Seigneur, rassemblez-vous pour la fraction du pain de l'Eucharistie et l'Eucharistie, après avoir confessé vos péchés pour que votre sacrifice soit pur. Je dis bien là, vous voyez bien, c'est marqué. Dès les toutes premières années du christianisme, on a compris, c'est pas quelque chose qui a apparu avec le Concile de Trente, on a compris que la messe, fraction du pain, c'était le sacrifice de l'Église. Ce sacrifice est bien, en effet, celui dont a parlé le Seigneur, quand tout lieu et en tout temps, on offre un sacrifice pur, c'est une citation de Malachie, prophète, car je suis le grand roi, dit le Seigneur, et merveilleux, et mon nom chez les nations. Dès le début, et ça ne changera pas d'un iota, la messe, l'Eucharistie est compris comme étant le sacrifice des chrétiens. De même que l'Ancien Testament a son sacrifice ou ses sacrifices. De même que toutes les religions ont leur sacrifice, la religion chrétienne du Christ a son sacrifice. Et c'est la fraction du pain. C'est l'Eucharistie. Nier cela, ou le mettre de côté, c'est mettre de côté l'enseignement constant de l'Église. Depuis l'an 70, 30 ans à peine après l'ascension du Christ. Donc voilà, c'est sérieux. Cinquième endroit,
Ce n'est pas partout qu'on offre le sacrifice perpétuel, mais c'est sur l'autel qu'on l'offre. Parce que vous réalisez, quand vous venez à la messe, que c'est le sacrifice des chrétiens, que ce qui est laquelle vous assistez. Ça, c'est pour l'aspect sacrifice, très, très, très clairement défini dès le début, et pour l'aspect sacrement, eucharistie, présence réelle, Saint Ignace d'Antioche, et donc soin de ne participer qu'à une seule eucharistie, car il n'y a qu'une chair de notre Seigneur Jésus-Christ, et un seul calice pour nous venir dans son sang, un seul autel, comme un seul évêque, avec le presbytérium et les diacres. Je ne développe pas toute la richesse qu'il y a là-dedans, on voit clairement l'affirmation corps et le sang du Christ dans l'eucharistie. On voit aussi l'idée de l'unité qui jaillit de l'Eucharistie, je l'ai dit, un des effets. L'effet premier de l'Eucharistie, c'est l'unité du corps mystique. C'est l'unité de l'Église, c'est la charité. Parce que quand vous communiez, vous êtes tous unis au même Seigneur, et donc vous ne faites plus qu'un seul corps entre vous. C'est l'Eucharistie qui fait l'Église. Sans Eucharistie, plus d'Église, c'est la fin du monde. Je le dis aussi. La fin du monde, mais cette idée de communion, d'unité dans l'Église, de partage, de tout ça, elle est réelle dans la foi, mais elle passe par l'Eucharistie. C'est vous tous unis avec le seul Seigneur, qui êtes du coup tous unis entre vous. Il est là l'un des mystères, l'un des aspects du mystère de l'Eucharistie, sur lequel on insiste pas mal aujourd'hui, pour reconnaître. Saint Ambroise de Milan, tu sais donc que le pain est changé au corps du Christ, et que la consécration opérée par la parole céleste en fait du sang, du vin. Avant les paroles du Christ, le calice est rempli de vin et d'eau, mais dès que les paroles du Christ ont agi, cela devient du sang qui a racheté le peuple. Vous voyez, le côté réaliste, ça devient du sang, ça devient le corps de Jésus. Saint Chrysostome sur le sacrifice, très éloquent aussi, il n'y a toujours qu'un seul sacrifice, maintenant encore nous offrons la victime qui fut alors offerte et qui ne se consumera jamais, qui ne se consumera jamais. Et je vous ai aussi Théodore de Mopsuète, qui est peu connu, mais en fait qui est très repris dans tous les textes du magistère, parce que c'est peut-être le plus clair sur la présence réelle à l'époque patristique. Remarquons que le Seigneur dit sur ce pain, non pas ceci est le symbole de mon corps, mais ceci est mon corps. Et sur le calice, il ne dit pas non plus ceci est le symbole de mon sang, ceci représente mon sang, symbolise, signifie mon sang, mais ceci est mon sang. Vous voyez l'insistance, dès le début, pour ne pas faire de l'Eucharistie un symbole, pour ne pas faire de l'Eucharistie uniquement un symbole. Faites bien attention, il y a un aspect symbolique dans les sacrements. On l'a dit, les sacrements sont des signes. Le pain, les apparences du pain que je vois après la consécration ressemblent à du pain. Ça a le goût du pain. Ce sont un signe qui me désigne autre chose, d'invisible. Mais est-ce que ça me désigne? Ce n'est pas uniquement une présence spirituelle de Jésus, ou un amour de Jésus, ou un don de Jésus. Ça me désigne, vérité de la phrase, ceci est mon cœur. Le signe sacramentel dans l'Eucharistie n'est pas un signe purement symbolique, c'est un signe symbolique et réalisateur de ce qu'il symbolise. Un sacrement, ce qu'il signifie, il le fait. Voilà ce qu'on avait vu un peu, on avait étudié les sacrements, mais important de le rappeler ici. Foi de l'Église, dès le début, c'est de croire dans la vérité de la parole, c'est Jésus. Tiens, tout est là. On avait dit, c'est un petit enfant qui veut faire sa première communion. La seule chose qu'il peut dire, c'est l'hostie, c'est Jésus. En fait, il a tout dit. Il peut faire sa première communion. C'est Jésus. C'est le cœur du Christ. C'est son corps. C'est le Seigneur. Voilà l'affirmation de la foi. Et ensuite, à partir de là, on va essayer de ne pas trop s'éloigner de l'affirmation de la foi en expliquant. Mais c'est ce qu'il faut garder absolument. Dès que ce que j'ai devant moi, on le prête l'élève au-dessus de sa tête après avoir la consécration, c'est le Seigneur. C'est ça ce que l'Église a compris dès le début, comme étant son trésor, qu'il fallait absolument conserver, et ce qui va être vraiment mis en péril à travers certaines hérésies. Pour le moment, tout va bien. C'est assez surprenant d'ailleurs. Autant le mystère de la Trinité va être attaqué dès les premiers siècles, le mystère de l'incarnation aussi, le mystère de la grâce et les débats des saints Augustin, autant le mystère de l'Eucharistie, jusqu'au 9e siècle, tout le monde est bien d'accord pour dire c'est le corps de Christ. La vérité de la parole, on ne se prend pas la tête, il est là, c'est pas symbolique, c'est réel. Et c'est au 9e siècle que quelqu'un de complètement inconnu au baptême rattrape de Corbie. Si vous connaissez, dites-le-moi, parce que c'est impressionnant. Rattrape de Corbie, 9e siècle, se dit que le sacrement du pain et du vin, en fait, c'est un symbole. Vous n'avez jamais compris comme ça. Que c'est un symbole du Christ, mais qu'il ne contient pas en vérité réellement le Christ. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? C'est mystérieux. C'est mystérieux. Pour élancer une explication, c'est que, en effet, c'est dur d'affirmer que c'est le corps de Christ. Puisque tout, l'apparence, me montre bien que ça ressemble, ça a le goût du pain, ça. Et ce n'est pas par ma raison, par ma réflexion que j'arrive à comprendre que c'est le corps de Christ, c'est parce que Jésus l'a dit. Voilà le mystère de la foi, le sujet de la foi. Et donc, la trappe de Corbie, non, c'est un symbole, mais qui ne contient pas en vérité réellement le Christ. Ça va être pris par quelqu'un d'un peu plus connu, au 11e siècle, Béranger de Tours. Béranger de Tours, premier grand hérétique sur l'Eucharistie, célèbre pour ça. Pour lui, le pain et le vin consacrés ne sont pas le vrai corps et le vrai sang, mais une figure et une image. Et pour bien préciser, il dit, le pain reste du pain. C'est toujours du pain. Mais, en plus d'être du pain, il se charge d'une signification nouvelle, d'une force spirituelle. Quand je le reçois, ce pain, qui est que du pain, sa réalité, en même temps, je m'unis spirituellement à Jésus qui est tout ça. Et c'est une manière d'expliquer, qui est hérétique, parce qu'elle ne correspond pas à la vérité de la parole. Ceci est mon corps. Ceci, chose qui est devant moi, est. Et à chaque fois qu'il y a une hérésie, l'Église reviendra à cette vérité de la formule du Christ. On ne peut pas réinventer l'Eucharistie, ça aurait été très bien d'imaginer un truc où Jésus se donne par symbole, pourquoi pas, mais ce n'est pas ce qu'il nous a dit. Ce qu'il nous a dit, c'est ceci est mon corps. Et donc, moi, la foi, je dis très bien, ceci, là, que je vois, c'est le corps de Jésus. Ce n'est pas un symbole, c'est une invention, c'est le corps de Jésus. Donc, Béranger de Tours s'éloigne de cette vérité, réellement, d'abord faire une confession de foi publique, ce sont les bonnes mœurs de l'époque, il va reconnaître son erreur, mais il va pouvoir quand même rectifier l'erreur qui est profonde, qui est nouvelle, et c'est à ce moment-là qu'apparaît dans l'Église le terme si attaqué depuis, et si important, de transsubstantiation. Pour, on sait, suite à l'hérésie de Béranger de Tours, qui nous dit c'est toujours du pain et ça représente le Christ, que l'Église dit non, c'est le corps du Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la substance, la chose que j'ai en face de moi, c'est-à-dire ce qu'est la chose, ce que je dis en disant c'est du pain, je désigne la substance du pain. C'est un arbre, je désigne la substance de l'arbre. Ce qu'est la chose. La substance, c'est ça. C'est ce qui se tient en dessous, sous terre, en dessous de quoi? En dessous des accidents. On fait un peu de métaphysique, et vous allez voir qu'on est obligé. Les accidents, c'est ce qui change. L'arbre, il grandit, il a des couleurs différentes, il change, il évolue. Les accidents changent. Mais il reste le même, il reste cet arbre, il reste cet arbre. Donc sa substance ne change pas. Voilà l'idée. Substance, accident. Substance, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, on va dire. Et l'accident, c'est ce qui est à l'extérieur, qui se voit. C'est ce qui touche mes sens, d'ailleurs. Et qui me désigne la substance qui est à l'intérieur de la réalité. Eh bien, l'idée de saint Thomas d'Aquin et des conciles à partir de l'hérésie de Béranger de Tours, ça va être que la seule manière d'expliquer que ça, l'hostie, c'est le corps de Jésus, la seule manière de l'expliquer, d'en rendre compte, c'est de dire les apparences, ce qui touche mes sens, n'a pas changé, les accidents ne changent pas, ils demeurent. Mais la réalité substantielle, ce qu'est la chose que j'ai en face de moi, ça a changé. Avant les paroles de consécration, en face de moi, c'était du pain, substance du pain. Après les paroles de consécration, ce que j'ai en face de moi, c'est le corps de Jésus. C'est une autre substance, substance du corps du Christ. Et donc on est passé d'une substance à une autre, c'est une transsubstantiation. Et non pas simplement une transformation. On évoquera toutes ces choses-là une autre fois. Mais c'est ainsi que l'Église, à partir de l'hérésie de Béranger de Tours, dit qu'il n'y a que comme ça qu'on peut rendre compte du mystère de la présence réelle. Et c'est saint Thomas d'Aquin, tout particulièrement, qui va développer et approfondir cette réalité. On verra ça la prochaine fois. C'est extraordinaire de simplicité. Alors, notre transsubstantiation, ça fait compliqué, parce qu'on met des mots de métaphysique. Mais quand on a compris que la substance, c'est ça, ce qu'est la chose, l'enfant qui dit « c'est Jésus » et le théologien qui dit « la substance du pain s'est convertie dans la substance du corps de Jésus », ils disent exactement la même chose. C'est le corps de Christ. Qu'est-ce que c'est? C'est le corps de Christ. Et c'est la substance. Et les accidents, ça ressemble à du pain. On voit bien que c'est pas, ça ne ressemble pas au corps de Jésus, dit le petit enfant. Mais il croit que c'est le corps de Jésus. C'est le même effort que essayer de faire la métaphysique et la théologie médiévale quand elle va parler de la transsubstantiation. Appuyée sur une métaphysique réaliste qui dit que ce que j'ai en face de moi, c'est des substances qui existent vraiment et qui se cachent sous des accidents qui m'apparaissent à moi. On appellera des phénomènes en philosophie moderne. Sauf que dans la philosophie moderne, on s'arrête au phénomène. Ce qui pose un vrai problème, d'ailleurs, je ne crois pas. Les philosophies modernes sont intéressantes, hein, mais je ne crois pas, par exemple, qu'on peut être phénoménologiste et utiliser la phénoménologie et la philosophie en vogue actuellement pour défendre l'Eucharistie. On ne peut pas. Et les textes récents du magistère nous le montreront bien. En quelque sorte, c'est assez intéressant de le voir, seule une métaphysique, une philosophie réaliste, celle qui nous vient d'Aristote, qui a été christianisée par Plotin et les platoniciens en partie, et qui arrive à saint Thomas, seul ce système philosophique réaliste, saint, peut nous permettre d'approfondir le mystère de l'Eucharistie. Je ne dis pas qu'un phénoménologue ne doit pas avoir la foi dans l'Eucharistie, et que l'instrument qu'il utilise n'est pas satisfaisant pour éclairer en vérité le mystère de l'Eucharistie. Il y a une saine philosophie qui C'est au service de la théologie. Et tous les systèmes philosophiques ne marchent pas pour rendre compte du mystère de la foi. Et là, il y a un aspect sans doute assez providentiel, voir que la philosophie grecque est celle qui s'est répandue dans l'Église et qui a été, dont l'Église s'est servie pour rendre compte du mystère de la foi. Saint Jean nous parle du logos. Saint Jean nous parle du logos. C'est révélé. Logos, c'est un terme philosophique grecque. Et c'est ce mélange des deux, de la foi, la révélation divine, et de l'instrument d'une philosophie saine, réaliste, issue des Grecs antiques, et qui va se transformer et qui va arriver jusqu'à saint Thomas à un mélange, à une unité admirable, ça me semble tout à fait providentiel. Et s'en écarter pour utiliser des systèmes de pensée nouveaux, idéalistes ou phénoménologues, pour décrire l'Eucharistie, vous allez voir, ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Donc, transsubstantiation, le mot fait peur, mais il est tout simple. Et il va permettre de rendre compte du mystère. Saint Thomas d'Aquin, on creusera la fois prochaine comment ça fonctionne, tout ça. Mais avançons, puisque je pense que si on s'était arrêté au XIIIe siècle, c'est la fin du monde au XIIIe siècle, ça aurait été merveilleux. Bon, on a fait des progrès en matière de réflexion, de la foi et tout ça. Mais on atteint quand même un sommet dans la contemplation du mystère. Vous lirez ce soir dans notre chambre l'hymne du Pangelimboa que j'ai vu tout à l'heure de saint Thomas, dans l'hymne de Fait Dieu. C'est fabuleux. De puits on ne fait qu'embrouiller. C'est des saint Thomas. Mais du fait qu'il y a eu des embrouillages, des embrouillements, qui vont servir à approfondir d'autres aspects, et notamment le protestantisme. Le protestantisme, on va essayer de résumer rapidement ce qu'il attaque, parce qu'on fait beaucoup d'erreurs dessus. Le protestantisme, d'abord, c'est des personnes. C'est des personnes qui ont émis des doctrines, qui ensuite se sont développées en système. Mais Luther, par exemple, croyait en la présence réelle. Il croyait mal, mais il croyait. J'explique un peu. Luther, fondateur du luthérianisme, mais protestant, tout ça. Luther croit dans la présence réelle, substantielle, du Christ dans le pain et le vin. Pour lui, ce n'est pas un symbole, ce n'est pas qu'un symbole. Il a d'ailleurs même s'opposer beaucoup à un autre protestant, Zwingli, qui lui dit autre chose, mais qui est très important, c'est lui qui l'a gagné. C'est Zwingli qui l'a gagné. Donc Luther prend la présence réelle, mais il refuse la transsubstantiation pour expliquer la présence réelle. Il dit, c'est le corps de Jésus, c'est vrai, avec toute la vérité de la foi, mais c'est aussi Dieu. Et pour lui, en gros, c'est les deux en même temps. Qui n'est pas possible si on réfléchit en métaphysique, mais ça ne gêne pas. Ça va devenir une sorte de, si vous voulez, ce n'est pas une transsubstantiation, le changement d'une substance dans une autre, c'est une consubstantiation. Il y a deux substances dans la même réalité. Ce qui est impossible en réalité parce que la substance, c'est ce que c'est. En métaphysique normale, si c'est du pain, ça n'est pas le corps du Christ. Si c'est un arbre, ça n'est pas une fleur. Si c'est un... Il n'y a qu'une seule définition, réalité, substance dans une chose. Luther, il force un peu la même chose. Et donc, pour lui, c'est à la fois entièrement le corps du Christ et c'est à la fois entièrement le pain. Consubstantiation. Donc, on n'est plus déjà dans la vérité du Christ qui dit c'est le corps du Christ. Si vous dites c'est du pain, après la consécration, forcément, à un moment donné, vous direz c'est le corps du Christ. Et c'est ce que Luther finit par dire, parce que son système ne marche pas, et si bien que pour lui, il y a quand même, c'est un peu plus du pain que le corps du Christ. La preuve, c'est qu'une fois la messe terminée, il y a l'une des deux qui gagne. L'une des deux substances qui gagne. Une fois que la messe est finie, ça n'est plus du pain. Ça, Luther l'enseigne. voyez les échos que ça peut avoir avec certaines erreurs modernes. Pour Luther, ça n'est le corps du Christ que pour être reçu et consommé. Donc si l'hostie n'est pas reçue et consommée, il n'y a pas de communion, l'hostie redevient ou est simplement du pain après. Vous voyez ? Notez ça. Si bien que sa théorie va dériver après chez les disciples en sorte d'impanation. Alors, l'impanation n'est pas chez Luther, c'est après. Et l'idée de l'impanation, c'est le système de l'incarnation mis pour l'Eucharistie. De même que la personne du Verbe assume une nature humaine pour ne faire plus qu'une, pour ne mettre plus qu'une seule personne avec deux natures, de même, la personne du Verbe, avec son corps quelque part, assume en plus le pain. Donc c'est la nature du pain, elle est là, la nature du pain, mais c'est la personne du Christ, c'est le Christ. Donc, vous voyez comment on complique les mystères, complique la réalité, parce qu'on se retrouve avec trois réalités substantielles, le Verbe incarné, son corps, le pain, tout ça mélangé de manière un peu curieuse, ça ne va pas tenir très longtemps. L'impanation. Ce qui va tenir beaucoup plus, c'est la position de Zwingli, qui elle est beaucoup plus radicale pour lui. En gros, l'Eucharistie, c'est un symbolisme total. Ceci est mon corps, ça veut dire ceci figure mon corps. C'est un symbole d'une nutrition spirituelle et donc d'une présence spirituelle de Dieu dans l'âme, qu'il suit quand on commune. Et c'est cette idée-là qui va devenir de plus en plus présente dans la Réforme et chez les protestants. La célébration prend son importance dans la signification qu'elle a aux yeux des fidèles. Il y a présence réelle, il y a présence du Christ lorsque je crois qu'il y a présence du Christ. Et vous voyez comment le mystère va devenir totalement dépendant de la signification que j'en ai. C'est plus simple. Il y a un certain respect dans la présence réelle en disant ça. Non. L'Eucharistie qui est jetée dans le caniveau, l'Eucharistie qui est utilisée pour des messes noires, l'Eucharistie qui est consommée par un pécheur, l'Eucharistie. Un certain respect qui fait dire non, c'est pas le corps de Christ, c'est pas ça qu'il a voulu. Donc c'est le corps de Christ que pour ceux qui y croient. C'est gentil, mais c'est pas ça que nous a dit Jésus. Jésus nous a dit, c'est mon corps. Voilà. C'est à ça qu'on revient à chaque fois. Les paroles ont été dites, c'est mon corps. Calvin pour un juste milieu entre Luther et Zwingli, mais on est vraiment dans une idée de présence spirituelle. C'est du pain, ça nourrit mon corps, mais en même temps, ça représente Jésus et ça nourrit mon. En gros, le milieu dans lequel évolue le protestantisme, une présence spirituelle, symbolique, et pas une présence réelle, de toute façon. Si bien que les Mormons irritent un peu tout ça quand même, vous savez qu'ils distribuent des. Dans les témoins de Jéhovah aussi, des Mormons, une Bible, et ils ont changé la Bible. Juste pour vous montrer à quel point, en fait, une position de ce type-là, c'est pas que les paroles du Christ, ils s'en sont rendus compte, ils ont changé les paroles du Christ. Dans les traductions de Joseph Smith, du passage de Matthieu, on a dans la Bible des Mormons des cinq derniers jours, parce que c'est. Ils envoient des prospectus, souvent très actifs, hein. Je pense que c'est la fin du monde et tout. Et c'est traduit en Matthieu 26:26, ceci est en souvenir de mon corps, ceci est en souvenir de mon sang. Ça simplifie les choses, hein. On n'a pas à s'embêter avec la formule du Christ. Ceci, à ce pain, c'est le souvenir de mon corps. En le voyant, vous en souvenez, vous l'aimez et vous le recevez spirituellement. C'est hérétique. Et le Concile de Trente se chargera de le rappeler. Mais avant de regarder le Concile de Trente, regardons un petit peu l'autre aspect de la question. Là, on parle surtout de la présence réelle, niée par les protestants. L'autre aspect, c'est le sacrifice. l'autel, il décrit nous-mêmes, prêtres perfides. Je peux quel terme utilise, des prêtres menteurs et trompeurs qui disent que la messe est un sacrifice. Le Père répond, le Christ est offert lui-même une fois. Il ne veut plus être offert par aucun autre. Il veut qu'on fasse comme moi, qu'on se souvienne de son sacrifice. Comment il voit cet ténèbres offert d'une mémoire, un souvenir, pour en faire un sacrifice. Puisque vous faites ainsi de la mémoire de son sacrifice un sacrifice, et que vous l'immolez encore une fois, pourquoi ne faites-vous pas de la mémoire de sa naissance ou de votre naissance, de sorte qu'il naisse encore une fois? Luther parle de la plus grande et la plus épouvantable horreur pour décrire la messe comme sacrifice de l'Église. Appel à l'Indesh, il est dans l'année 70, votre sacrifice pur, ce sacrifice, c'est bien ce que nous avons. On est loin quand même de ce qu'on est de l'Église, mais ça n'en est pas. La messe n'est pas un sacrifice, n'est pas le renouvellement du sacrifice du Christ, c'est simplement le souvenir d'un acte passé qui ne se renouvelle plus. D'ailleurs, il tient absolument, il pose une vraie objection, une vraie difficulté. Il dit le sacrifice du Christ, il est unique. C'est absolument vrai. Il faut maintenir qu'il n'y a qu'un seul sacrifice et c'est celui du Christ. Mais il n'empêche que l'enseignement constant du Père de l'Église, présent dans les évangiles, c'est que l'Eucharistie est aussi un sacrifice. Comment on fait? On réfléchit un peu, on fera une prochaine fois. Il faut tenir les deux. Et lui décide de n'en choisir qu'un. Le sacrifice de Christ est unique, il n'est pas réitérable, donc la messe n'est pas un sacrifice. C'est juste un souvenir, un mémoire. Et derrière, l'idée c'est que le sacrifice du Christ rend inutile tout autre sacrifice. Jésus a tout fait, c'est bon. Nous on a juste à avoir la foi dans ce qu'il a fait, et surtout il ne faut plus rien faire. Et une cohérence dans la pensée de Luther. Que nos œuvres ne servent à rien. Seule la foi nous sauve. Les œuvres que l'on fait ne servent à rien. Donc à quoi bon pour nous offrir un sacrifice? Il a au contraire la pensée chrétienne, c'est-à-dire que le Christ a offert un sacrifice pour nous permettre à nous, maintenant et aujourd'hui, d'offrir à nouveau un sacrifice agréable à Dieu en l'offrant à lui-même sur la croix. Mais que dans la messe, dans toute la vie chrétienne, Jésus fait tout et nous invite à participer. Et maintenant, c'est à nous de faire. Et les œuvres, elles ont du poids et du mérite grâce à la croix du Christ. Mais ça ne nous dispense pas d'œuvrer, de faire le sacrifice, d'offrir la messe, de faire des prières, de poser des actions de charité, des œuvres. Salutaire refuse complètement, il n'y a que la foi qui sauve. Refusant totalement le fond de la vertu de religion, vous en avez parlé, qui dit que tout homme doit offrir un sacrifice à Dieu. De tout temps, à toute époque. Et vous aussi, vous devez offrir un sacrifice à Dieu. Et vous le faites, c'est la messe. Le Concile de Trente va rappeler la vérité catholique, de manière forte, véhémente, de la vigueur de la vérité. Dans un concile qui est infaillible, qui a été annoncé comme étant infaillible dans tous ses points, dont chacun des conciles et des canons qui sont là sont doctrines de foi. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les canons, venez nous voir, on en parle, mais c'est délicat. C'est le concile de Trente. C'est avec Vatican Ier, deux conciles, avec une force dogmatique, on ne fait pas mieux. Et en théologie, ces deux conciles-là, Trente et Vatican Ier, sont décrits comme étant défide divina et catholica definita. Deux fois divine et catholique défina. Il n'y a pas de mieux. On est dans l'explicitation de l'évangile, de la révélation, avec une volonté réelle d'affirmer ça comme étant la foi de l'Église, de la part des successeurs des apôtres. C'est une prise de décision très importante. J'en lis quelques-uns, mais je pense que vous voyez un peu l'idée. Si quelqu'un dit, dans un concile de Trente, il y a d'abord le texte qui explique la doctrine, avec toutes les références aux Saintes Écritures, les arguments, la réflexion et tout ça. Et puis après, pour bien s'assurer qu'on a bien compris, on condamne l'erreur. D'abord, on dit la vérité, et après, on condamne l'erreur. Et parfois, c'est plus rapide d'aller voir la condamnation de l'erreur, parce que c'est plus court, et on voit bien le point qui est visé. Et le plus important, c'est le texte qu'il y avait avant, mais que vous n'avez pas mis ici. Si quelqu'un dit que dans le Saint-Sacrement, l'Eucharistie, ne sont pas contenus vraiment, réellement, substantiellement, le corps et le sang, et en tant que l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, et en conséquence le Christ tout entier, mais qu'ils ne sont que tant qu'en tant que signe ou figure, ou virtuellement, qu'ils soient anathème. Anathème, c'est la condamnation ultime, communication, bonne et due forme, parce qu'on refuse une vérité de la foi. Et à chaque fois, vous voyez dans les textes, à chaque fois on se rapporte à cette vérité du Christ, ceci est non. Si quelqu'un dit que dans ce sens, sincèrement, la substance du pain et du vin demeure avec le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, et s'il nie ce changement admirable et lui de toute la substance du pain en son corps et de toute la substance du vin en son sang, changement que l'Église catholique appelle d'une manière très appropriée la transsubstantiation, le mot est dans le concile de trans. C'est pas rien. L'Église s'engage sur une explication théologique. Elle le fait très 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 rarement. L'Église s'engage en disant que la transsubstantiation est la manière la plus appropriée, en tout cas très appropriée pour défendre. Donc celui qui veut se passer de la transsubstantiation en imaginant des nouvelles théories pour expliquer l'Eucharistie, il sève tôt. Il soit bien, bien armé, parce que quand même pas mal de choses contre lui. Si quelqu'un dit que, voilà, après, ça défile, vous le lirez, c'est sympa en lecture du soir, de se rappeler la vérité de la foi, c'est-à-dire de se rassurer aussi, donc ça je crois, ça je crois pas, ça je crois pas, c'est sympa. Mais vous regarderez, tout est bien expliqué, c'est ce qu'on verra nous la fois prochaine. Et sur le sacrifice de la messe, même rappel, je vais juste noter, on va tourner la page. Notre Dieu Seigneur allait souffrir lui-même une fois pour toutes à l'Eucharistie, un seul sacrifice, on affirme bien. Mais, cependant, il voulut laisser à l'Église, c'est ce que j'ai mis en gras, son épouse bien-aimée, un sacrifice qui soit visible comme l'exige la nature humaine. Là, il y a tout. La compréhension du concile que nous avons besoin de sacrifice. La nature humaine demande à ce qu'il y ait un sacrifice dans la vie. Et le Christ le savait bien. Il nous a laissé un sacrifice. Vous avez un sacrifice. Dans votre religion, c'est l'Eucharistie. Et par là serait représenté le sacrifice sanglant qui devait s'accomplir une fois pour toutes sur la croix. Et après, le détail de montrer qu'il y a une chose qui change entre la croix et la messe, c'est le mode. À la messe, c'est non sanglant, et sur la croix, c'est sanglant. On reprendra et on approfondira ces choses-là en le voyant. Après le XVIe siècle, le Concile de Trente met bien les choses en place pour la foi catholique. La grande question va être, pendant les 4 siècles qui vont suivre, de réfléchir sur l'Eucharistie comme sacrifice. C'est-à-dire voir comment, c'est compliqué, comment est-ce qu'il peut y avoir un seul sacrifice, c'est le sacrifice de la croix, et que la messe est en même temps et aussi un sacrifice. C'est complexe, on va approfondir ça. La théologie a beaucoup débattu sur ces questions, c'est très intéressant. Je crois que nous sommes arrivés aujourd'hui à une conclusion, j'espère. Je vais nous la montrer. Qui est assez simple, en fait. Voilà. Mais le XXe siècle, avec toutes ses richesses, va décider de bazarder tout ça. Et avec le modernisme, notamment, mais ici, du début du XXe siècle, on va remettre en cause tout ce qui avait été affirmé et établi par la doctrine de l'Église, les différents conciles, et notamment la transsubstantiation. On va trouver que la transsubstantiation est trop liée à une métaphysique réaliste, la métaphysique de saint Thomas d'Aquin, et qu'il faut utiliser les nouveaux outils de la philosophie pour mieux comprendre l'Eucharistie. Et en fait, on va se rendre compte, le magistère est très violent, très très radical, en vérité, que dès qu'on utilise autre chose, on transforme le monde extérieur en une présence purement spirituelle. Et ça devient, Jésus est là, comme il est un peu partout. Un peu à la manière de, quand deux ou trois seront réunis en mon nom, je serai au milieu de vous. Certains nous disent que c'était ça la présence réelle. La présence divine quand on est là. Donc une présence qui est liée à la communauté, de l'importance dans la messe d'être en commun, d'avoir du public, sinon il n'y a pas de présence réelle. Certains sont allés jusque-là, au moment de la grande crise de l'Église qui a traversé, qui a touché beaucoup l'Eucharistie. Et d'autres ont développé un thème qui est le thème de la transsignification. Alors, déjà que la transsubstantiation, le mot fait compliqué, mais pourtant c'est très simple derrière. Transsignification, c'est une complexité, la théorie elle-même est une complexité énorme, s'appuie sur la philosophie existentialiste, phénoménologique, dans l'idée que une présence, c'est une relation. Ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux. La présence A, c'est une relation. Et que du coup, il y a présence réelle de Dieu à partir du moment où il y a une relationnalité entre Dieu et nous. Et cette relationnalité, elle est là dans l'idée que Jésus nous donne son corps. Et donc c'est dans le don du corps de Jésus qu'est la présence réelle, relationnelle. En gros, transsignification, ça veut dire quoi ? Le pain et le vin ont une signification qui est aliment corporel, signification normale pour tout le monde, et par les paroles du Christ, le pain et le vin changent de signification et se mettent à signifier le don que Jésus veut faire de nous-mêmes. Et par là, la présence de Dieu arrive, puisque présence, c'est la relation. J'explique très très brièvement l'idée principale. Ça pose un gros problème. Est-ce que c'est du pain ou est-ce que c'est le corps du Christ? Et en fait, le système existentialiste est incapable de répondre à la question. C'est-à-dire qu'on fait le tour, mais on dit que l'important, ce n'est pas la substance. La substance de la chose en elle-même, indépendamment. Ça, on s'en moque dans ces systèmes philosophiques. Puisque toute la réalité est relationnelle. Donc l'important, c'est la relation qui s'établit entre moi et ce pain. Ou la relation que ce pain permet d'établir entre moi et le Christ, et qui crée une présence réelle, relationnelle. Mais est-ce que c'est le corps ? On ne sait rien. Et c'est là que ça pose un problème, c'est que il n'est pas impossible que ça ait été condamné, la transsignification. Sur le papier, ils arrivent à aboutir à une présence réelle. Mais, est-ce que ça, ce que j'ai en face de moi, c'est le corps du Christ en lui-même? Ça ne les intéresse pas, pratiquement. Est-ce que lorsque je ne reçois pas le corps du Christ, il reste le corps du Christ, puisqu'il n'y a plus de relationnalité? C'est tant de choses qui vont amener, en fait, un flou terrible. La transsignification, la transfinalisation, c'est des systèmes très compliqués, fait par quelques théologiens allemands un peu barrés. Mais en fait, les idées qu'il y a derrière vont avoir une influence énorme dans la réforme, dans la crise de l'Église. Finalement, on va renouer avec des visions protestantes. Et la transsignification est assez intéressante pour faire le pont entre des visions protestantes et des visions catholiques en disant l'important c'est pas tellement de savoir ce que la substance est. Qu'est-ce que la substance d'ailleurs? On ne sait rien, c'est des mots en ancien temps, nous c'est le sens, la finalité, la signification qui compte. Qu'est-ce que ça signifie pour toi l'Eucharistie? Ça signifie le corps de Jésus. On est d'accord. C'est bon. Et poursuit pour qui ça signifie. suis pas ton Jésus, qu'est-ce que c'est? Et on fait dépendre la présence réelle de la foi de fidèle, la croyance des fidèles. Et c'est pas ça, mais c'est... ça ne répond pas suffisamment à la parole de Christ, c'est Jésus. Et je crois que c'est de là, de ces idées, de ces confusions d'idées, que vont découler beaucoup d'abus liturgiques. Qu'est-ce que la parcelle? C'est rien, la parcelle. Elle n'est pas reçue. C'est l'hostie qui est reçue. Donc c'est l'hostie qui est, représente, signifie le corps de Christ. Mais la parcelle. Du coup, on ne purifie plus. Qu'est-ce que l'hostie si elle n'est pas reçue? Pourquoi adorer? Vous savez que les années 50, 60, 70, l'adoration eucharistique va tomber en désuétude. L'Eucharistie n'est pas faite pour être adorée, elle est faite pour être mangée. C'est en cela qu'elle est le corps du Christ. C'est ça la transsignification. C'est ça l'idée. Et du coup, l'adoration eucharistique va disparaître. Le tabernacle. Quoi ça sert de conserver des dossiers dans le tabernacle? Quoi ça sert de le mettre au cœur de l'église sur l'autre côté? Et avec ça, avec un système volonté d'œcuménisme, je crois réellement, mélange un peu tout, c'est pas du tout évident. On posait la question une fois de savoir comment deviner si une personne croit la présence réelle ou pas. C'est hyper chaud. Parce que si la pensée moderne est tellement confuse que on sait plus vraiment. On ne sait plus vraiment. Et nous, on a la petite question un peu idiote de l'enfant, mais c'est quoi? Et il nous sort des pavés où on ne comprend rien, de transsignification, de trans. On peut dire, c'est Jésus. Et si on dit c'est Jésus, c'est Jésus. C'est-à-dire que ce que j'ai en face de moi, c'est Jésus, que je coupe en deux, c'est Jésus, et que une parcelle, c'est Jésus. Et toute la théologie classique de l'Eucharistie découle de ça, c'est Jésus. La transsubstantiation ne dit pas autre chose que ça. C'est Jésus. Et si c'est Jésus, il reste Jésus. Après la messe. Et je peux l'adorer, c'est merveilleux. Parce que je l'ai en face de moi, c'est Jésus. Et si c'est Jésus qui tombe par terre, c'est terrible. Parce que c'est Jésus qui tombe par terre. C'est pas qu'un symbole qui tombe par terre. Et si c'est Jésus et qu'il est utilisé pour une messe noire, c'est terrible. Et si c'est Jésus, je dois le respect, je vais l'adorer. Vous voyez, tout est là, c'est une simplicité infantile, l'Eucharistie. C'est Jésus. Et à force de vouloir nier l'évidence réaliste des paroles de l'Eucharistie, c'est le corps du Christ, on en finit par tomber dans quelque chose qui n'est plus la vérité. Et à force, je crois, de ne plus poser les gestes dans la liturgie, vont manifester que c'est Jésus et finir par oublier que c'est Jésus. Ça, la liturgie dit, le magistère de l'Église est une clarté imparable sur la doctrine eucharistique. Jamais. Là, je me mets en porte-à-faux, non, avec la façon de dire, je veux bien, le Concile Vatican II, je vais lire les textes, hein, Paul VI, dans Paul II, sur la doctrine eucharistique. C'est une chance énorme, bien sûr. Sur le rite, c'est plus délicat. Sur la manière d'exprimer la doctrine eucharistique à travers les rites et les choses qui sont faites pour exprimer cette sainte vérité, c'est Jésus, c'est plus délicat. Je vous ai juste mis là, pour bien vous montrer quand même, Paul VI, dans une enseignée très très importante, Mystère et Fidélité 65, complètement inconnu. Il lui rappelle, avec une précision énorme, la vérité de la foi, et je vous ai bien mis, nous assure que le Christ ne sera en présence seulement que par la conversion de toute la substance du pain pour le Christ, toute la substance du pain pour le sang du Christ, ça c'est le mystère actuel. Conversion singulière et merveilleuse que l'Église catholique dénomme en toute justesse, propriété de terme, transsubstantiation. Paul VI se rappelle que c'est ça qu'il faut utiliser comme instrument pour comprendre le mystère. Paul VI, mission fidèle, c'est pour la présence réelle. Jean-Paul II, il a des Eucharisties là, très très bien encyclique, c'est pour la messe comme sacrifice. Comment ne pas admirer les exposés doctrinaux, les décrets promulgués par le Concile de Trente. Au cours des siècles, ces pages du Concile de Trente ont guidé la théologie aussi bien que la catéchèse, et elles sont encore là une référence dogmatique pour le renouveau continuel et la croissance du peuple de Dieu dans l'amour, dans la foi et l'amour envers l'Eucharistie. Ça fait plaisir de voir que le pape se réfère à ces grandes pages du Concile de Trente, expliquant que tout y est, que depuis on répète, et qu'il y a eu vraiment quelque chose au Concile de Trente qui s'est passé. Et il développe, en rappelant, on reprendra quand on discutera le sacrifice. Mais voilà, retenez la simplicité de la foi, trésor reçu par les apôtres quand ils ont assisté, que le Christ a dit, a pris du pain, c'est mon corps. Enfin, tout de suite, ils ont compris que c'est son corps. Et cette compréhension n'a pas évolué. Ça n'est plus du pain. C'est le corps de Jésus. Quand vous voyez l'hostie s'élever au-dessus des. Vos yeux vous disent, ça ressemble à du pain, mais la foi vous dit, vous devez maintenir absolument, ce que j'ai devant moi, ce n'est pas du pain. Autre manière équivalente de dire, c'est le corps du Christ. Et les deux vont de pair. C'est quoi? C'est le corps du Christ. Donc ce n'est pas du pain. Et le mystère est là. C'est le corps du Christ. Et il le demeure. Et il y a la beauté spirituelle, la nourriture spirituelle qu'il faut y avoir, ce que j'essaie de vous dire, c'est de comprendre ce qui s'est passé dans la tête de Dieu au moment où il a fait de ces mots. L'Eucharistie qui demeure perpétuellement dans nos églises, c'est l'amour absolu de Dieu, l'amour objectif de Dieu, qui ne dépend pas de la foi des fidèles, de l'état de l'âme du fidèle pour être présent. Il est là. Il est là. Quel que soit l'état de votre âme, il est là. Et si vous le recevez en état de péché mortel, vous le recevez. Jésus ne va pas s'envoler au ciel. C'est dit dans un conseil. Jésus ne s'envole pas au ciel s'il est reçu dans une âme qui n'est pas en état de grâce. Il est reçu. Et c'est triste parce qu'il est reçu dans un qui ne l'aime pas. Il est reçu dans une âme qui le déteste, qui va le faire fuir aussitôt. Mais il est reçu. Il ne s'en va pas. Il est là. Et tant que demeurent les apparences du pain et du vin, il est là. Cette présence objective de Jésus, qui est là quand les églises sont fermées, qui est là quand il est mis par terre, qui est là quand il est à tout moment, je crois que c'est le signe pour nous, un signe extraordinaire de l'amour inconditionnel que Dieu a pour nous, de la valeur de sa promesse, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il est là. Et quand je le vois, je me dis, c'est le Seigneur. Merci.
Juste une dernière annonce.